Avant de reprendre mon exploration de la région minière, je visitais Ingleborough, non loin de là. D'un sommet de 800 mètres, on découvre la mer au-delà du Lancashire. Au flanc de cette étrange montagne s'ouvrent de nombreuses grottes dont j'entrepris l'inspection. Cela me prit 3 jours. Je dormais dans un hangar près d'un village très campagnard et très fleuri, car toutes les chambres étaient bourrées de gens. Sur la carte, cet endroit porte le nom de Clapham in Clapdale. Clapdale est une combe entre deux croupes, où je découvris la grotte la plus vaste que j'ai jamais vue. Pour y accéder, je dus escalader un sentier qui mène à une voûte creusée dans la paroi calcaire et dissimulée par des arbres. À peine y étais-je entré que je vis les vestiges d'une bataille. En fait, toute cette région avait été envahie car elle était connue pour ses grottes. Aux alentours de celle-ci, le sol était jonché de morts. Pour se protéger du poison, on avait dû calfeutrer la grotte. De temps à autre, une porte de fer en protégeait l'entrée. On avait construit un mur derrière cette porte et une foule était venue chercher refuge à l'abri de cette clôture. Mais la porte et le mur avaient été tous les deux démolis à coups de pioche et de barres de fer qui se trouvaient encore là. Armé de ma lampe et d'une bougie sur mon chapeau, j'entrai vivement et me glissai dans un étroit passage incrusté de lichens putréfiés, sous un plafond bas couvert de petits cônes retournés qui faisaient penser à une forêt d'arbres miniatures. Et je débouchai dans une caverne garnie d'innombrables stalactites humides qui scintillaient comme des candélabres. Au centre de la caverne, dans une sorte de ruelle, c'était un amas de vêtements, de chapeaux, de visages. Non sans dégoût, je passai rapidement par-dessus ces dépouilles. La caverne allait en s'agrandissant continuellement. Du plafond pendaient des stalactites de toutes les formes. Certaines faisaient penser à des pies de vache, d'autres à des massues de titans. Partout, on entendait le tip-tip-tip des gouttes d'eau. On avait l'impression de se trouver dans un bazar peuplé de personnages dégoulinant de sueur, et dont le seul travail consistait à faire tip-tip-tip. Quand les stalactites rencontrent des stalagmites, les piliers se forment. Si une stalactite rencontre une autre stalactite, cela produit d'élégantes draperies, de délicates fantaisies. Il y avait aussi des mares dans lesquelles on apercevait des jambes et des têtes. En certains endroits, la voûte qui s'élevait constamment se réfléchissait dans le miroir du sol. Soudain, la voûte s'abaissa, le sol remonta, et j'eus l'impression qu'il se rejoignait devant moi. Mais je finis par trouver un passage que je parcourus en rampant dans la boue, sans pouvoir éviter le contact répugnant des cadavres. Au bout, je trouvai un sol sablonneux sous un tunnel étroit, triste et sombre, dépourvu de stalactites. Mon imagination me faisait voir des moines, des catacombes et moi-même sur le chemin du tombeau. Peu de morts ici, la foule n'avait pas eu le temps de parvenir jusque-là. À moins que ceux de l'intérieur fussent sortis pour défendre leur citadelle ou pour prêter l'oreille au bruit de l'ouragan. Ce passage me conduisit à une autre salle, immense, voûtée, phosphorescente. Pour peu qu'on clignât des yeux, des millions d'étincelles se mettaient à danser la scottish. Cette salle devait être à 800 mètres de l'entrée. À la lumière de ma lampe, je ne comptais que 19 cadavres. Tout au bout, je découvris 2 trous dans le sol, assez grands pour que le corps puisse s'y frayer un passage. Du fond montait le bruit d'une cascade. Je pus voir que tous deux avaient été bouchés avec du ciment, sage précaution, je pense, car un courant d'air, venant de je ne sais où, soufflait dans ces trous et aurait pu entraîner un résultat fatal. Mais le ciment avait été brisé par quelque ignorant, qui pensait probablement trouver un abri plus sûr au-dessous. Pendant 1 heure, je restai l'oreille collée au bord de la plus grande cavité, saisi par le charme de cette chanson qui ruisselait dans les profondeurs. Puis, curieux de savoir ce qui se cachait au-dessous, j'arrachai plusieurs robes à des cadavres et les nouai l'une à l'autre pour en faire une corde. J'en nouai l'extrémité à un pilier et tout en appelant « Personne, personne !» je me laissai glisser en m'éclairant avec la bougie de mon chapeau. Je ne descendis pas très loin dans cette sombre fosse. Presque tout de suite, mon pied trempa dans l'eau. Épouvanté à l'idée que tous les diables de la géhenne s'accrochaient à ma jambe pour m'attirer en enfer, je remontai plus vite que je n'étais descendu. Et sans m'arrêter un seul instant, je courus jusqu'à ce que je retrouve l'air libre avec un soupir de soulagement. Après cela, voyant que le temps se rafraîchissait, car l'automne touchait à sa fin, j'entrepris mes recherches d'une manière plus systématique. Je m'appliquai avec constance à découvrir, non pas véritablement un homme au fond d'une mine, mais le témoignage qu'un homme vivant avait survécu à la catastrophe. Je visitai ainsi le Northumberland, le pays de Galles et le Monmouthshire, la Cornouaille et les Midlands. Je descendis par l'échelle de 110 mètres dans la mine de graphite abandonnée de Barrowdale, dans le Cumberland, qui est située au flanc d'une haute montagne. Je visitai les poches où se trouve le minerai de cobalt et de manganèse, de la mine de Fuel Hiradog, près de Rhyl, dans le Flintshire, et les exploitations de plomb et de cuivre de Galloway, les charbonnages de Bristol et les mines du Staffordshire, où, comme dans le Somerset, les veines sont médiocres. Je visitai les mines de fer à ciel ouvert du Northamptonshire, les carrières de pierre et d'ardoise souterraines, avec leur alternance de piliers de soutien et de chambres, dans le district de Festinogue, au nord du pays de Galles. Les mines de sel, de cuivre et de cobalt de Cornouailles, où les minéraux sont remontés à la surface à dos d'homme. Je pénétrai dans tous les tunnels, dans toutes les cavités recensées, car quelque chose me pressait, une voix me répétait « D'abord, sois sûr, sans cela tu ne seras jamais toi-même. » Dans le bassin houillé de Farnbrook, dans le Red Cold Pit, mon inexpérience faillit me coûter la vie. Bien que j'eusse une connaissance théorique de toutes les exploitations anglaises, j'étais dans la pratique comme un homme qui aurait appris la navigation à terre. À Farnbrook, où j'arrivai le 19 décembre, je vis des monceaux de cadavres au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La plaine en était couverte et semblait un champ moissonné couvert de meules. Et il y en avait encore plus aux abords de la mine. Il remplissait la seule maison qu'on pût voir de l'entrée de la fosse, la maisonnette réservée aux ingénieurs de la société, située sur un monticule artificiel fait de terre et de scories. Je ne vis pas, comme partout ailleurs, d'échelle accrochée dans le puits d'aération, qui est habituellement peu profond et qui sert aussi de puits de pompage. Mais en scrutant le fond du puits, je vis des vêtements et une échelle de corde. Des fugitifs avaient dû l'arracher en s'accrochant à elle de tout leur poids pour empêcher d'autres arrivants de descendre à leur tour. Pour en explorer le fond, j'étais obligé d'emprunter le puits. Après quelques hésitations, je décidai que la première chose à faire était de prévoir mon retour, et j'allai chercher une longue corde d'un demi-pouce d'épaisseur dans le bureau du porion. Des cordes traînaient partout dans les mines, à croire que chaque fugitif en avait apporté une brassée. Je fis donc passer cette corde par-dessus le bras de levier de la pompe, de manière à retrouver les deux bouts au fond du puits de ventilation. En nouant le bout du filin à l'échelle de corde, je la hisserai jusqu'en haut. Ensuite, je n'aurai plus qu'à amarrer l'autre bout à un point fixe dans le fond du puits. Je mis le moteur du treuil en marche et les 300 mètres du filin d'acier s'enroulèrent autour du tambour avec une lenteur désespérante. Quand les quatre chaînes qui tenaient la cage apparurent, j'arrêtai l'ascension. J'attachai par un bout une corde à l'embrayage cassé et je pris l'autre bout avec moi dans la cage, où je trouvai cinq compagnons. J'allumai la bougie de mon chapeau, pour pouvoir me rendre compte si l'air était vicié, ainsi que ma lampe Davy, puis, sans réfléchir, je tirai sur la corde. D'abord, mon ascenseur eut un léger sursaut, puis il commença à descendre normalement. Ma bougie s'était tout de suite éteinte, mais je n'y attachais pas trop d'importance, et si le puits fut un peu ébranlé, je me dis que cela arrivait dans tous les puits. Cet ébranlement, cependant, devint de plus en plus violent. La lumière de la lampe agonisa, les joues des morts tremblèrent, les sabots de la cage sifflèrent le long des câbles, et nous descendîmes de plus en plus vite, glissant légèrement au début, puis de manière catastrophique, tandis qu'une pluie d'étincelles giclait des sabots et des câbles. Une tempête secoua mon esprit, brouilla mon regard et me coupa le souffle. Quand nous rebondîmes sur les ressorts au fond du puits, je fus projeté en l'air au-dessus des visages cadavériques et je vins m'écrouler parmi les morts. Une heure plus tard, assis par terre, découragé et réfléchissant à l'incident, je me rappelais qu'il fallait toujours contrôler le mécanisme pendant la descente de la cage. Un mécanicien freinait la vitesse avec une manette pour éviter le rebondissement. Ma lampe était brisée, mais j'en trouvais, heureusement, des milliers d'autres dans la mine. À l'intérieur de la mine, je découvris, peu après, une salle de 25 à 30 mètres carrés, dont le sol était garni de plaques de tôle. Dans les murs étaient creusées des niches dont je n'ai jamais pu comprendre l'usage. Partout, des wagonnets remplis de charbon et de terre. Et partout des cadavres, autour, sur et sous les wagonnets. Je pris une nouvelle lampe que je remplis avec le pétrole de l'ancienne, et je descendis d'une pente très raide, garnie de rouleaux, sur lesquels courait un câble qui servait à remonter les wagonnets jusqu'à l'entrée du puits. Sur les côtés, à intervalles réguliers, étaient creusés des trous d'hommes dans lesquels les mineurs pouvaient se garer quand les wagonnets descendaient. Dans ces trous d'hommes, ici un mort, ailleurs de la nourriture. Dans un recoin, un monceau de cadavres. Il faisait une chaleur d'au moins 40 degrés qui ne cessait d'augmenter au fur et à mesure que je m'enfonçais à l'intérieur de la terre. Je montai sur une benne qui me conduisit à une salle de triage dont le centre était occupé par une plaque tournante. J'en fis ma base d'opération. Des galeries, les unes montantes, les autres descendantes, rayonnaient tout autour de cette salle encombrée de tas de houille et de wagonnets prêts à remonter le charbon à la surface. Les morts formaient plusieurs tas. Certains avaient la tête tournée du côté de la montée, d'autres regardaient vers la descente. La partie centrale où s'opérait le tri était à peu près vide. Le silence qui régnait sur cette hécatombe me donnait le vertige. M'hypnotisé. À un moment donné, je me sentis irrésistiblement appelé par le gouffre démentiel de la mort, comme je ne l'avais jamais été auparavant. Mais je me dis qu'il fallait rester fort et ne pas sombrer comme eux dans le silence fatal. Qu'ils suivent leur propre voie et qu'ils continuent dans leur façon d'être. Je suivrai ma propre voie et continuerai dans ma façon d'être. Je ne veux pas avoir de rapport avec eux, bien que je sois seul contre un peuple immense. Je cessai de divaguer et je me remis au travail. Tirant sur le câble d'un wagonnet, je remontai la pente en me courbant pour ne pas toucher la voûte haute d'un mètre, et j'arrivai ainsi sur la scène d'un autre carnage. Dans ce passage étroit, 19 mineurs s'étaient battus pour s'emmurer à l'intérieur. Ils étaient étalés sur le sol, pieds et torses nus, vêtus de leurs seuls pantalons. Ils avaient des expressions féroces, leurs crasses étaient zébrées de sillons de sueur, et leurs chapeaux munis de lampes avaient roulé à côté d'eux. Au dehors traînaient leurs hoyos et leurs foreuses, qui leur avaient servi d'armes. Je pénétrai dans une galerie à voie double, dans laquelle, tous les 15 mètres environ, s'ouvrait une galerie latérale. Partout, des recoins et des cul-de-sac avaient été murés. Un seul mur était encore intact. Je suppose que les autres avaient été démolis par ceux-là même qui les avaient dressés et qui étouffaient ou mouraient de faim. Avec un hoyo, j'abattus le mur intact. Il était en plâtre, mais imperméable à l'air. Et dans un espace de 3 mètres, je découvris le cadavre décomposé d'un conducteur de wagonnet, avec son équipement à ses pieds. Il avait conservé le coussinet qui protégeait sa tête en poussant les wagonnets et s'était muni de pain, de sardines et de bouteilles de bière. Cinq ou six souris tombèrent en criant du trou que je venais d'ouvrir. J'en fus bouleversé, car j'avais trouvé des multitudes de souris mortes dans ces mines. Je revins à la salle de triage. Je trouvai un treuil et une chaîne, à l'aide de laquelle je descendis par un puits très étroit dans une veine située plus bas. Imaginant que je pourrais entendre le bruit perpétuel que les mineurs de fond échangeaient avec ceux du haut pour signaler la manœuvre, je descendis encore plus bas dans une autre salle de triage, car dans cette mine, il y avait peut-être six ou sept veines superposées. Cette salle me révéla l'apogée du drame qui s'était déroulé dans cet enfer. Ce n'était plus seulement une foule entassée, mais en certains endroits, un magma de chair qui répandait une odeur de pêche mêlée à l'odeur de poussière de la mine, car l'aération devait y être défectueuse. Ces pauvres gens avaient dû être abattus en masse par trois autres personnes seulement, comme je pus m'en rendre compte en voyant trois trous dans un mur bouchant un tunnel. De chaque trou sortait la gueule d'une arme à feu, et ceux qui s'en étaient servis avaient assouvi leurs instincts barbares en un cruel massacre. Quand, n'en pouvant plus de dégoût et d'horreur à force de traverser un océan de cadavres, je regardai à travers un autre trou dans ce mur, je vis un homme, deux jeunes garçons, deux femmes, trois jeunes filles et des monceaux de cartouches et de provisions. Ce trou avait probablement été percé de l'intérieur quand les occupants avaient senti venir l'asphyxie et le poison était entré par là. Ce devait être le propriétaire de la mine ou le directeur et sa famille. Dans une autre veine, située plus près de la surface, je faillis m'évanouir et je dus m'éloigner promptement d'une zone délétère où une explosion de grisou s'était produite. Cependant, je ne renonçai pas à visiter chaque recoin. Je ne pris pas un moment de repos avant 6 heures du soir. Je remontai alors par l'échelle de corde du puits de pompage. Le jour où je m'arrêtai dans cette région déserte balayée par les vagues que l'on appelle Cornwall Point, d'où l'on peut voir les rocs de Land's End surgir de la mer dans une écume blanche, ce jour-là donc, je mis un terme à ce que je peux appeler mon enquête officielle. De Cornwall Point, je partis à pied vers le nord, et après quelques heures de marche, j'aperçus une maison de belle apparence possédant une longue véranda, donnant sur la mer et abritée par le balcon de l'étage en surplomb. Les murs étaient en pierre de taille, le toit assez bas, recouvert d'ardoises vertes. Ces longues lignes horizontales donnaient à cette demeure une apparence de solidité et de paix. La véranda était flanquée d'une tourelle où était aménagé un cabinet de travail. J'y vécus 3 semaines. C'était la maison du poète Machen, dont le nom m'était bien connu. Il avait épousé une belle jeune fille de 18 ans, sans aucun doute espagnole, et qui était étendue sur le lit de la vaste chambre à coucher située à côté de la loggia. Un bébé, une tétine de caoutchouc dans la bouche, reposait sur sa poitrine. La mère et l'enfant étaient miraculeusement conservés. Elle était encore très belle, avec ses boucles d'un noir de jais sur le front. Le poète n'était pas mort avec eux. Il était dans la pièce voisine, vêtu d'une veste de soie grise fripée, et, assis à son bureau, il écrivait un poème. Il écrivait, comme je pus le voir, à la hâte, fébrilement. La pièce était jonchée de pages couvertes d'écritures. Il était 3 heures du matin quand le nuage, je le savais, avait recouvert cette pointe de la Cornouaille et l'avait arrêté dans son travail. Sa tête reposait sur le bureau. Sa femme, ayant sans doute sommeil, peut-être n'avait-elle pas dormi les nuits précédentes, était allée se coucher en attendant l'arrivée du nuage. Il lui avait probablement promis de la rejoindre pour mourir avec elle, mais il avait voulu finir son poème, écrivant dans la fièvre, comme s'il avait engagé une course avec le nuage, en pensant encore 2 strophes de plus. Puis l'horrible chose était survenue et sa tête était tombée sur le bureau. Je ne crois pas avoir jamais rencontré un exemple plus flatteur pour ma race que celui de Machen dans sa course contre le nuage. Il est clair désormais que les grands poètes n'écrivent pas pour satisfaire la foule des personnes qui les lisent, mais pour se délivrer du feu divin qui couve dans leur cœur. Et puisque maintenant les lecteurs ne sont plus là, leurs écrits seront lus par Dieu. Je me sentais si bien dans la compagnie de ces 3 pauvres êtres que je restai 3 semaines avec eux. Je fis mon lit sur un divan du salon où de merveilleux tableaux étaient accrochés au mur. Et, comme dans toute la maison, des fleurs fanées remplissaient les vases. Je ne voulais évidemment pas toucher à la jeune maman pour la retirer de son lit. Je trouvai sur le bureau de Machen un cahier recouvert d'une couverture souple marbrée de rouge et de jaune. Je l'emportai et, dans la petite tourelle, j'écrivis, jour après jour, le compte-rendu de ce qui était arrivé. Je pense que je continuerai à écrire pour me soulager et me sentir moins seul. À une époque où je voyageais en motocyclette dans la vallée de la Severne, quelque part dans la plaine entre Gloucester et Cheltenham, dans un lieu assez solitaire, j'aperçus une étrange construction. De près, je vis que c'était une bâtisse de briques. Elle mesurait environ 15 mètres carrés. Son toit aussi était en briques. Elle avait une seule porte et pas de fenêtre. La porte était ouverte. Elle était bordée de caoutchouc et, une fois close, cette masure était imperméable à l'air. J'y trouvai 15 Anglais, très bien habillés, sauf 2 d'entre eux, qui devaient être les maçons, 6 femmes et 9 hommes. Dans un coin, je vis 2 hommes qui avaient la gorge tranchée. S'étaient-ils sacrifiés quand il devint impossible de respirer, ou avaient-ils été tués par les autres? Je ne le saurais jamais. Des provisions étaient entassées le long d'un mur, à côté d'un coffre plein d'oxyde de manganèse, et d'un appareil pour produire de l'oxygène, ce qui était une folie car un surplus d'oxygène ne peut rien contre la quantité d'anhydride carbonique rejetée par la respiration. Ces gens durent finir par ouvrir la porte et rencontrer la mort. Cette masure a sans doute été construite par ceux qui l'habitaient sous la direction des 2 maçons. Ils n'auraient pu en effet appeler des ouvriers pour ce travail à moins de les admettre parmi eux, et il ne pouvait en employer que très peu. En général, j'ai observé que les riches tentaient d'échapper au poison avec plus d'impatience que les gens des autres classes de la société. Les pauvres, en effet, ne comprennent que ce qu'ils ont sous les yeux, vivent au jour le jour, et entretiennent l'idée que demain sera semblable à aujourd'hui. Par exemple, à l'hôpital de Gloucester, dans la salle d'attente des malades, j'eus l'occasion de voir quelque chose d'étonnant. 4 vieilles femmes en châle étaient venues se faire soigner le jour où le destin frappait. J'en conclus qu'elles étaient incapables d'imaginer qu'il pouvait arriver un événement imprévu sur cette vieille terre quotidienne qu'elles connaissaient et qu'elles foulaient avec assurance. « Si tout le monde doit périr, devait-elle se dire, qui prêchera à la cathédrale dimanche soir ?» Dans une pièce voisine, un vieux docteur était assis, son stéthoscope aux oreilles. Une femme, poitrine nue, se tenait devant lui. Ce vieillard était mort, lui aussi, en faisant son travail. Dans une salle de chirurgie de l'hôpital, les patients n'étaient morts ni du poison, ni de suffocation, mais de faim. Les médecins, ou d'autres personnes, avaient calfeutré la salle et enfermé les malades à l'intérieur, car je tombai sur un amas de fantômes informes, des squelettes surtout, agglomérés devant la porte fermée. Je compris que leur mort n'était pas due au nuage empoisonné, car la pestilence de la salle n'avait rien de commun avec cet arôme d'amande qui avait toujours pour effet d'embaumer les corps. Je m'enfuis le plus loin possible de cette salle, et me disant qu'il était peut-être dangereux et certainement impie qu'une pestilence puisse se répandre, j'entrepris de réunir les matériaux nécessaires pour incendier le bâtiment. Le lendemain soir, j'étais assis dans un fauteuil au milieu de la rue et je contemplais l'embrasement de cet édifice, quand une idée me traversa l'esprit, une idée infernale, et je me surpris à sourire comme aucun homme n'avait encore jamais souri en me disant « Je vais tout incendier, je vais retourner à Londres ». Durant ce voyage de retour, je m'arrêtai un soir pour dormir à Swindon et je fis un rêve. Un petit vieillard chauve, bossu, dont la barbe descendait comme un filet d'argent du menton jusqu'au sol, me disait « Tu crois que tu es le seul sur la terre? C'est du despotisme. Va, prends ton élan, mais aussi sûr que Dieu vit, que Dieu vit, que Dieu vit, 6 fois, tôt ou tard, tard ou tôt, tu rencontreras quelqu'un d'autre. » Je me réveillai le front en sueur, le cœur glacé comme un cadavre. J'arrivai à Londres le 29 mars et débarquai à moins de 100 mètres de la gare du Nord, par un soir froid et venteux, vers 8 heures. Je partis en direction d'Easton Road, où je savais trouver une bijouterie. Je constatai avec regret que la porte était fermée, comme celle de presque tous les magasins de Londres. Cherchant autour de moi quelque chose de lourd, j'avisai un ouvrier étendu par terre. Je découpai une de ses chaussures, la retirai de son pied crispé, et, muni de cette arme, je frappai la vitre jusqu'à ce qu'elle vole en éclats. Puis j'entrai. Le bris de la glace ne me procura aucun émoi. Mon pouls était calme. Je tenais la tête haute et j'avançais d'un pas royal. Mon regard était froid et tranquille. J'avais quitté Londres 8 mois auparavant comme un pauvre être souffreteux. Je peux rire à présent de tant d'absurdité. Heureusement, cela ne dura pas. Le sultan redevint le sultan.